Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge, ravie de vous retrouver. Nous allons passer une heure ensemble dans notre bulle d'optimisme pour découvrir des femmes et des hommes qui ont l'audace d'entreprendre. Et même quand c'est impossible, à La France bouge, c'est possible. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le chef du service économie d'Europe, hein, et aujourd'hui, émission exceptionnelle avec une entreprise exceptionnelle. Une heure dans le luxe français.
Oui, à la une aujourd'hui de La France bouge, Hermès. C'est l'un des plus grands noms du succès du luxe Made in France. L'entreprise, connue pour ses carrés ou ses sacs Birkin, connaît un développement exceptionnel. Quelles sont les recettes de la maison Hermès? On en parle avec son directeur général jusqu'à 14h.
Elle a une en effet le luxe français et des mannequins robots qui bousculent ce secteur de la mode. Toutes les morphologies y sont proposées. C'est EVK, sa fondatrice, et elle aussi autour de la table de La France bouge.
Hermès et la maison Ravel ont un point en commun. Ils sont nés la même année, en 1837. Des maisons familiales au savoir-faire exemplaire. La maison Ravel travaille l'argile sous toutes ses formes pour en faire des objets du quotidien. Et ce sera bien sûr notre saga du jour.
Nous accueillerons ensuite notre trophée de l'avenir Europe 1, La France bouge. Aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne qui rassemble des objets, des produits de luxe fabriqués en France. Ça s'appelle Frenchair. Le pitch, va-t-il convaincre le patron d'Hermès? Réponse à 13h45.
Enfin, demain au travail, comment bien accueillir les salariés quand on est une entreprise en hyper-croissance? CVE est un producteur d'énergie renouvelable et il a organisé tout un parcours pour bien accueillir les petits nouveaux. On leur passera un coup de fil en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans La France bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous pouvez nous suivre en direct sur Europe1.fr.
Europe 1.
S'il y a bien un secteur où le succès du Made in France ne se dément pas, c'est bien l'univers de la mode et du luxe, avec vraiment aujourd'hui une entreprise emblématique de ce luxe français qui fait rêver, on peut le dire, hein, le monde français, avec son orange si reconnaissable à partout dans le monde. Un secteur qui se porte très bien et on en parle jusqu'à 14h.
Bonjour Guillaume de Seine.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la maison Hermès. Hermès, on connaît tous. La maison est née en 1837 et depuis ses débuts, elle n'a jamais cessé de grandir tout en restant une entreprise familiale. C'est aujourd'hui l'un des plus grands noms du luxe dans le monde. Alors le secteur du luxe, Guillaume de Seine, fait partie de ces secteurs qui sont repartis très vite, hein, au point d'avoir déjà effacé les effets de la crise sanitaire. Guillaume de Seine, comment ça va en ce moment chez Hermès à un mois de Noël?
Ça va plutôt bien. Nous sommes cotés en bourse, bien qu'étant une société familiale. Et donc, nous avons divulgué évidemment les chiffres à fin septembre, qui sont les derniers chiffres que nous avons donnés. On voit que la tendance est très bonne, avec une forte croissance, je dirais, dans tous les territoires où nous sommes présents, c'est-à-dire le monde entier, bien sûr l'Asie, mais aussi les États-Unis, et même nos marchés européens qui... y compris la France, qui sans touristes ou avec moins de touristes se défendent très bien.
C'est quoi forte croissance?
Alors nous sommes à fin septembre au-delà de 30% par rapport à 2019, qui est une base de comparaison évidemment plus pertinente.
Alors justement, avec Elisabeth, on est allé se plonger un petit peu dans ces résultats. Ce qui est impressionnant, c'est surtout quand même le succès de l'Asie. Et ça, c'est quand même une surprise pour les géants du luxe que vous êtes, parce que jusque-là, ces clientèles venaient beaucoup acheter chez nous quand ils avaient la chance de pouvoir voyager. Est-ce que vous êtes vous-même surpris du succès de vos boutiques, que ce soit au Japon et encore plus peut-être en Chine?
Alors c'est vrai que depuis des années, nous avons construit un réseau de magasins. Nous distribuons dans nos propres magasins. Ça a été l'aventure du Japon dans les années 80, puis celle de la Chine et du reste de l'Asie un peu plus tard. On peut dire que face à cette épidémie, on a été rassurés d'une certaine façon de voir qu'en effet, les clients de ces pays-là qui ne voyageaient plus, continuaient de nous être fidèles et fréquentaient largement nos magasins sur place, ce qui était une confirmation de notre attrait pour ces clients.
Alors Guillaume de Seine, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous n'avez jamais vendu autant?
Nous pouvons dire que l'année en cours va sans doute être un record, oui, puisque le précédent record, c'était 2019 et que nous sommes
bien
largement
au-delà, plus 30%, vous l'avez dit. Donc c'est historique ce qu'on est en train de vivre chez Hermès.
Je pense, oui, que ça va être une année record. Oui.
Ça va donc être une année record, mais quand on est un producteur de produits aussi prestigieux qu'Hermès, on ne produit pas à la chaîne tout ce qui peut sortir. Est-ce que vous n'êtes pas face à un problème, là aussi peut-être totalement inédit? Vous n'avez pas assez de stock pour faire face à toute cette demande mondiale?
C'est vrai que, notamment dans notre métier principal qui est la maroquinerie, nous sommes sur nous restons fidèles à un modèle de fabrication très artisanal. C'est un artisan qui fabrique un sac du début à la fin et que donc, pour faire croître les quantités, il faut engager, former. C'est une formation très longue, voilà, de 18 mois, que nous assurons nous-mêmes dans nos ateliers. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que, compte tenu de ces contraintes, ce sont d'autres métiers qui tirent la croissance du groupe. La maroquinerie va très bien, mais elle croît à la vitesse, je dirais, presque maximum par rapport
Mais vous ne répondez pas tout à fait à notre question. Est-ce que vous en avez assez des produits ? Parce qu'il se murmure
que
vous
vrai.
En manquez un peu quand même.
Dans la maroquinerie, la demande est très forte. Je ne peux pas dire le contraire. Pourquoi nous restons attachés à ce modèle de production ? C'est que c'est pour nous essentiel et lié à la qualité que nous voulons offrir. Donc, nous n'allons pas déroger de ce mode de fabrication
Donc
artisanale.
Donc, ça signifie que, par exemple, cette année, vous n'avez pas pu faire des ventes pour les clients privilégiés ou pour puisque le stock n'est plus disponible.
Alors, il y a eu quand même un effet de consommation d'un stock qui s'était un peu constitué l'année dernière, puisque l'année dernière on a bien résisté, mais c'était une année un peu en retrait malgré tout. Notre chiffre d'affaires avait baissé de 6%. Et donc, certainement qu'une partie de la croissance de cette année a été justifiée ou en tout cas aidée par des stocks qui s'étaient constitués l'année dernière.
Alors, Hermès est connu pour sa maroquinerie, vous venez de le dire, hein, Guillaume de Seine, notamment ses sacs iconiques, ses carrés, sa vaisselle. Et depuis, plus récemment, par les cosmétiques, qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous ? Alors, évidemment, il y a un immense segment qui est la maroquinerie, mais il y a des petits nouveaux, là, les petits rouges à lèvres, les petits blushs qui sont en train de faire une belle percée. Hein.
Ce qui est important de souligner, c'est nous voulons être une maison de création. Et donc, dans chaque métier dans lequel nous sommes présents, nous essayons d'avoir une vraie démarche créative. Alors, nous sommes présents dans le parfum depuis les années 50, avec un créateur maison qui s'appelle Christine Nagel aujourd'hui. Et nous avons pensé, il y a quelques années, que nous pouvions étendre, en effet, notre activité au maquillage, dans un premier temps. Mais avec le même propos et la même idée de faire un véritable acte de création. Donc, nous avons commencé par le rouge à lèvres, qui a été très remarqué, avec un tube rechargeable, avec des belles matières, et puis bien sûr...
Mais il paraît que là aussi, ça va même plus vite que ce que vous imaginez, alors que pourtant, à un moment où on porte des masques, où les femmes ont eu tendance à moins se maquiller, il paraît
que c'est vrai que la contradiction, c'est de lancer du rouge à lèvres à peu près le même
c'est là
mois
où, vous êtes
où
très
tout
fort,
le monde commence à porter des masques.
C'est là où vous êtes fort.
Voilà, on est fort, mais ça marche quand même bien.
Qu'est-ce que ça dit, ces performances de votre industrie ? Est-ce que c'est dû à des clientes et des clients qui, quitte à ne pas voyager, dépensent quand même le budget qu'ils auraient consacré à ça ? Ou des gens qui se disent, quitte à ce que le monde se délite et on ne sait pas très bien à quoi ressemblera demain, je fais presque un investissement patrimonial quand je pousse la porte d'une maison comme Hermès ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que la France, à travers ses très grandes marques, dont Hermès fait partie, assure maintenant de façon très claire un leadership mondial dans ce secteur, et porté par évidemment la place de Paris, par les savoir-faire que nous avons dans notre pays. Et puis c'est vrai que des budgets de voyage, des budgets de dépenses dans les hôtels, dans les spas, etc., sans doute sont moins pertinents cette année ou moins possibles cette année. Et que s'offrir un bel objet, un secteur qui a par exemple marche très fort depuis l'année dernière, c'est tout ce qui est pour la maison, la vaisselle, l'art de la table. Et là, on peut comprendre évidemment la priorité de nos concitoyens ou dans le monde entier, la priorité de dépenser de l'argent pour son cadre de vie.
Une année record avec une croissance de plus de 30% par rapport à 2019, c'est ce que vous nous dites, Guillaume de Seine. Vous êtes le directeur général d'Hermès et vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle continue de battre des records. Si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous l'avez peut-être entendu, Hermès est en route pour une année tout simplement record en cette année 2021. Émission exceptionnelle autour de l'une de nos plus belles marques qui se vend partout dans le monde avec Guillaume de Seine qui est le directeur général d'Hermès.
Et quand on parle du luxe, on pense aussi au prêt-à-porter. Hein, et cette industrie du prêt-à-porter doit lutter contre les millions d'invendus. Tiens, par exemple, quand on essaye un pantalon, votre taille 40 ne correspondra peut-être pas à la même taille 40 que votre voisin. Cela est évidemment lié à la forme du corps qui est propre à chacun. Ainsi est née une solution pour éviter tout cela. Ça s'appelle EVK. Bonjour Audrey-Laure Bergenthal.
Bonjour à tous.
Vous êtes la fondatrice d'EVK. Ça fait longtemps que vous aviez cette idée de robot en tête, parce que c'est un robot, EVK. Très jeune, vous vous êtes aperçu que la mode n'était pas inclusive, mais trop standardisée, avec des tailles pas assez adaptées. Et c'est comme ça que vous avez créé votre robot.
Exactement. C'est une conviction chevillée au corps depuis une vingtaine d'années. À l'origine, jeune fille, voyant ma maman très belle, qui trouvait pas des vêtements à sa taille, donc j'ai pas compris évidemment. Et voilà, de là est partie une réflexion plus générique et j'ai vu que tout le monde avait ce problème et j'ai vu ces mannequins de bois, j'ai vu qu'il y avait un problème entre la base et puis quand on travaille sur une mauvaise base, on peut pas forcément bien travailler du coup son taillant et encore plus dans les petites et grandes tailles. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que la jeune génération le crie sur les réseaux sociaux,
mais
on a des
l'époque.
TikTok qui pour nous sont fabuleux puisque les jeunes n'hésitent pas à dire que ça taille pas bien dans les grandes tailles, qu'ils arrivent avec des nouveaux corps en plus, avec des nouvelles morphologies. On assume beaucoup plus ses formes en tant que femme en plus aujourd'hui. Donc on est en plein dans le timing.
Mais alors, pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, vous rentrez je crois les tailles dans un logiciel, dans votre logiciel, et là le mannequin robot augmente les volumes selon la taille souhaitée pour vraiment avoir quasiment quelque chose qui s'adapte pile à notre morphologie ?
C'est exactement ça. C'était un énorme défi puisque il n'existait aucune connaissance sur l'évolution du corps humain dans son enveloppe externe. Donc, on a mis au point des règles d'évolution du corps humain, d'agrandissement, rétrécissement, en fonction de l'âge, des morphotypes, etc. Donc, ce robot, il est capable en un seul robot, donc de changer de ce qu'on appelle nous une taille 34, donc une très petite taille, un extra extra small, un extra extra large, on va dire pour parler de façon générique. Et au sein de ces variations, il est capable de faire la même taille en différentes formes de corps. L'idée, c'est vraiment de réintroduire dès le design, dès la conception, un dialogue inclusif et responsable en termes d'écologie pour dire est-ce que mon vêtement, dans sa taille par exemple 38, va aller à tous ces types de corps pour reproduire l'expérience d'essayage dont on a les retours d'informations trop tard, souvent la saison d'après.
Donc là, dès la conception... c'est du quasi-sur-mesure ?
Alors, on peut évidemment faire du sur-mesure, c'était l'usage le premier, le plus évident.
Ou c'est pour trouver le 38 qui ressemble le plus à la moyenne d'un 38 en France.
Exactement, l'idée c'est en fait de se connecter au logiciel de vente des marques, de collecter de la data, c'est le nouveau grand mot, mais en fait ce sont des chiffres à aller chercher dans les statistiques de vente des marques et de les faire remonter, de les traiter avec notre algorithme et notre robot, puisqu'on a une partie informatique et une partie robotique. Et donc, dans nos systèmes informatiques, on génère des statistiques de taillants dans toutes les tailles, et on peut imaginer demain, du coup, des marques qui vont dire moi, je ne sors des produits que quand ils ont X% de couverture en chaque taille. D'accord. Et là, on sera dans une approche RSE, et notre solution sert aussi aujourd'hui à la vente en ligne. Donc, la vente en ligne dans le luxe, comme avec des maisons comme Hermès, où on peut imaginer des cycles de vente à distance, en visio, sans retouche. Ça fonctionne très bien. Mais aussi de vente en ligne. On est en train d'être déployé par des géants du e-commerce américain.
Type Amazon ?
De ce type-là, exactement. Mmh. Qui vont mettre en place notre solution pour aller jusque de la recommandation digitale et du photoshooting en ligne. Ça aide beaucoup aussi de voir son produit dans toutes les tailles.
Alors là, ça nous paraît évident, mais comment on met en place un robot qui arrive à faire tout ça ? Vous avez dû vous entourer de personnes qui s'y connaissaient. Vous, comment on en arrive là ?
Un peu de folie.
Il en faut, il paraît, pour entreprendre.
Surtout que vous étiez avocate, je crois, au démarrage. Oui, vous n'étiez pas du tout dans...
En propriété intellectuelle, exactement. Mmh. Donc, bon, consciente des risques de copie, mais ça ne suffit pas. Non, je me suis entourée de grands talents sur la partie ingénieur. Donc, je remercie mon équipe sur ça. Donc, on a beaucoup de métiers qui se parlent entre nous. Donc, on est comme un orchestre symphonique. Il y a de la mécanique, de l'électronique, des matériaux, du logiciel, du métier, des gens de la mode. Bref, tout le monde se parle et on a conçu ce robot tous ensemble. Ça a été très long,
mais, oui, c'est
mais
ça.
On y est arrivé.
C'est et un qui vrai sont challenge. Vos clients? Je crois que vous avez cité Amazon, mais ça va aussi bien de... Alors, un concurrent d'Hermès, mais de Chanel et ses grandes maisons du luxe.
Exactement. Depuis le début, on a eu la confiance des grandes maisons du luxe françaises qui jouent leur rôle de pédagogie et de changement. Donc, on a été accompagnés par les plus grandes maisons du luxe.
Guillaume de Seine, vous êtes le directeur général d'Hermès. Vous êtes notre grand témoin du jour. Hein. Vous étiez en train d'écouter très attentivement Audrey-Laure Bergenthal qui a fondé ce robot hein, EVK pour que toutes les morphologies puissent trouver son compte, hein, comme on dit, pour le prêt-à-porter. Est-ce que c'est une technologie que vous pouvez utiliser, vous aussi, puisque vous avez du prêt-à-porter chez Hermès?
Alors, je connais EVK depuis plusieurs années et nous sommes en discussion justement avec les équipes d'Hermès pour regarder si ce que nous pourrions faire ensemble.
Parce que chez vous aussi il y a des invendus, j'arrive pas à imaginer que chez Hermès il y a des invendus.
Alors pas tellement par rapport aux invendus, il y a des invendus en tout cas nous faisons depuis toujours, nous avons une politique très claire d'abord de produire à la commande et puis ensuite une politique de solde que nous assumons totalement en dehors des magasins qui
bah,
nous permettent...
Dites-nous, c'est où ça?
Alors c'est au Palais des Congrès en l'occurrence à Paris et donc pour réduire au maximum en effet nos invendus. Et puis après il y a une politique de dons et de...
Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que disait Audrey-Laure Bergenthal, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui les morphologies des femmes sont différentes, notamment parce que c'était l'exemple qui était pris et qu'on a plus envie de mettre en avant possiblement des formes ou en tout cas de les assumer. Vous le ressentez vous aussi dans cette évolution y compris des jeunes générations, parce que c'est peut-être contradictoire avec l'image qu'on peut avoir d'Hermès, mais il y a de plus en plus de jeunes aussi chez Hermès.
La clientèle a beaucoup rajeuni, c'est vrai, notamment dans les pays, je dirais dans les marchés les plus récents. C'est vrai qu'en Chine, nos clients sont plus jeunes que la moyenne européenne ou même dans d'autres pays asiatiques. Donc il faut tenir compte en effet de tous ces éléments. Et je trouve que cette innovation est vraiment très intéressante.
Audrey-Laure Bergenthal, vous dites que les entreprises produisent mieux là en ce moment, notamment j'imagine grâce à votre robot. Ça veut dire quoi produire mieux ?
Produire mieux dans l'industrie du luxe où on sait, comme disait Monsieur De Seine, qu'on a moins le problème des invendus, on est sur des plus petites quantités et dans une notion
de fidélité du client.
C'est une logique d'aller cibler ces nouveaux marchés, de encore mieux les adresser. Dans une logique d'industrie, on va dire plus prêt-à-porter, plus standard, on produit beaucoup dans des grands volumes et souvent un peu vite. Et là, dans ces cas-là, oui, on produit mieux dans le sens où on va mieux produire ces petites et grandes tailles qui sont faites que, pour l'instant, de façon digitale en 3D. La 3D ne suffit pas, surtout des pièces complexes. Et il faut améliorer ça.
Ça s'appelle EVK. Merci à vous, Audrey-Laure Bergenthal, d'être venue dans La France Bouge, hein, nous présenter votre robot qui s'adapte pour toutes les morphologies. Merci à vous.
Et
merci
Guillaume de Seine, le patron d'Hermès, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Émission exceptionnelle aujourd'hui autour d'une marque iconique française. Il n'y a pas beaucoup de marques françaises qui ont autant de poids dans le monde. On est aujourd'hui avec Guillaume de Seine, le patron d'Hermès. Alors certes, le luxe à la française marche très fort. On le voit avec vos concurrents, LVMH, qui détient notamment Vuitton, Kering, qui a par exemple Gucci. Mais j'ai envie de dire quand même que Hermès fait un peu figure d'exception. Votre marque est l'une des plus fortes au monde, avec peut-être Chanel dans votre secteur. Comment vous l'expliquez? Comment vous avez réussi finalement, patiemment, parce que vous progressez patiemment, comment vous avez réussi ce pari?
Nous sommes une maison familiale, et ça a été dit, nous avons 184 ans d'existence. Moi je représente avec mes cousins la sixième génération de cette famille, et je crois que notre force, c'est d'avoir développé cette maison en cohérence absolue avec les projets de nos fondateurs, c'est-à-dire toujours la qualité exceptionnelle, la qualité basée sur des matières exceptionnelles et sur des savoir-faire exceptionnels, et puis une créativité. Hermès, c'est une maison de création qui se renouvelle en permanence, qui essaye de surprendre, d'étonner et de renouveler l'intérêt de nos clients.
Alors c'est qui aujourd'hui la cliente Hermès? Parce que vous l'avez dépoussiéré cette image d'Hermès. Auparavant, on se disait, tiens, c'est la marque de nos grands-mères.
Ou de nos mamans.
Ou de nos mamans, parce qu'elles pouvaient aussi aussi s'offrir des carrés, des beaux bijoux. Là, aujourd'hui, on a l'impression que vous touchez de plus en plus de jeunes, notamment grâce au réseau.
C'est vrai que ce renouvellement créatif, ce foisonnement créatif, il s'adresse évidemment à l'ensemble de nos clients. Il y a des clients plus jeunes, c'est vrai en Asie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en Europe, à travers des nouveaux métiers comme la beauté, on l'a dit tout à l'heure, à travers les accessoires de mode, à travers la bijouterie, à travers un certain nombre de catégories de produits. Nous avons aussi été assez pionniers, puisque dès 2000 nous avons vendu à travers un site internet.
2001.
Oui, ce qui pour une marque,
alors on a commencé aussi,
à un moment où vos concurrents disaient nous.
Voilà.
Jamais.
Alors, ça a commencé aux États-Unis. C'était la décision de mon oncle, qui était encore Jean-Louis Dumas, qui était encore président de la maison à l'époque. Et c'était assez visionnaire, je dois reconnaître. Donc aujourd'hui, nous avons aussi ce vecteur de vente qui marche très fort et qui n'est pour nous pas incompatible, et au contraire, très compatible avec nos magasins. Ce sont souvent les mêmes clients.
Mais quand vous dites ça marche très fort, ça veut dire quoi? C'est que ça vous permet d'aller toucher là encore la clientèle plus jeune, grâce aussi aux réseaux sociaux, Instagram ou autre, une clientèle qui achète peut-être une première fois parce qu'elle a peut-être peur de pousser la porte d'une boutique Hermès, parce qu'il faut bien le dire.
Elle ose davantage.
C'est quand même très impressionnant de pousser la porte et d'arriver dans ce monde, à vous dire, c'est peut-être pas ma place quand on est jeune notamment.
Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, cette année, notre filiale aux États-Unis nous dit nous avons une fréquentation des magasins très forte et nous avons beaucoup de clients que nous ne connaissions pas, souvent plus jeunes, qui, à travers 2020, à travers le confinement, ont commencé d'acheter sur le site et maintenant veulent découvrir l'ensemble de l'univers en arrivant dans nos magasins, en entrant dans nos magasins. Donc, encore une fois, les deux réseaux sont complémentaires et ne sont pas opposés.
Alors aujourd'hui, le numérique, ça représente quoi pour une maison comme Hermès? Parce que vous avez commencé en 2001, donc là, vous avez un sacré recul.
On ne donne pas de chiffres précis, mais disons que...
Parce qu'on peut dire que c'est au moins votre plus grand magasin au monde.
C'est notre plus gros magasin. C'est l'équivalent de notre plus gros magasin. Oui.
C'est le numérique.
L'ensemble des ventes digitales dans le monde.
Alors justement, poussons-y à la porte des magasins. Ça va ressembler à quoi, demain, un magasin Hermès? Est-ce que ça peut changer déjà?
Le magasin Hermès, c'est toujours un projet architectural original. On ne refait pas le même magasin dans toutes les villes du monde. Chaque projet, et c'est vraiment le meilleur, le plus beau cadre de vie et d'accueil pour nos clients, chaque projet tient compte du lieu, du bâtiment, de la ville, des traditions du pays, des matières du pays. Et ça, je crois que c'est tout à fait à continuer dans l'avenir, parce que c'est respecter nos clients, de les accueillir dans le plus beau cadre possible.
C'est lequel pour vous le plus beau magasin Hermès?
Ah bah, j'ai forcément une petite tendresse pour le magasin historique, parce que ça fait depuis 1880 qu'on est installé là, qui est rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais j'aime beaucoup aussi la rue de Sèvres.
Qui est très jolie.
À Paris, qui est très spectaculaire.
Jusqu'au 5 décembre, Guillaume de Seine, Hermès a pris ses quartiers à l'École des Beaux-Arts de Paris, où là-bas vous allez inviter le public, à assister, voire à participer à d'étonnants cours de gym. Hein, ça s'appelle le Hermès Fit. Vous étiez présent, vous avez fait ça aux États-Unis, à New York récemment. Ce sera à Tokyo après Paris. Ça sert à quoi aussi tout ça? C'est pour toucher cette clientèle de plus en plus jeune?
Nous aimons beaucoup, dans notre politique de communication, organiser des événements. Bien sûr, nous faisons de la publicité, mais nous aimons bien organiser des événements pour nos clients ou pour ceux que ça intéresse,
pour
des nouveaux clients. Donc, on a un événement très intéressant qui s'appelle, en anglais, pardon, Hermès in the Making, où nous amenons nos artisans. Nous avons eu ça à Copenhague récemment, où j'y étais. Nous avons des démonstrations d'artisanat.
Puis vous avez le sceau Hermès également, vous faites généralement
de réparation, etc. Nous avons le sceau Hermès, qui est évidemment un événement hippique lié à nos racines, puisque nous sommes nés dans ce métier-là.
Mais là, c'est quand même très différent, parce que si ça nous a intéressé, c'est qu'avec Elisabeth, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? On a quand même des cours de sport où on fait avec le carré Hermès.
Hermès devient un accessoire.
Le but,
sport.
C'est de jouer avec vos matériaux iconiques.
Oui, disons que c'est toujours intéressant aussi de surprendre, d'étonner.
Bah,
on peut être considéré comme une vieille dame, donc il faut, faut.
Vous le faites
bien. Montrer qu'elle bouge encore, voilà, et qu'elle bouge bien.
Il faut être là, on ne nous attend pas forcément.
Guillaume de Seine, chaque jour, on aime bien La France bouge, revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui ont traversé des années, voire des siècles, qui font la fierté de notre pays parce qu'ils sont toujours présents. Aujourd'hui, on va rester dans cet univers du luxe et dans cet univers de l'artisanat français. Et on va s'arrêter un moment sur l'argile, sur la poterie, dans une manufacture familiale, elle aussi, qui existe depuis le 19e siècle.
Oui, ils ont la particularité d'être nés la même année que la maison Hermès et la maison Ravel. Ils font en effet de l'argile et on va découvrir leur histoire grâce à Charlotte Barrican de La France bouge.
Europe 1, La France bouge, la saga.
Il n'y a pas que le feu que l'on doit aux hommes préhistoriques, on leur doit aussi l'invention de la poterie et de la céramique, ces savoir-faire qui, depuis des millénaires, consistent à travailler de la terre cuite ou de l'argile pour en faire des objets du quotidien. Ça a l'air tout simple, hein, mais derrière se cache tout un art. Et justement, dans la famille Ravel, à Aubagne, le goût de la poterie et de la céramique se transmet de génération en génération depuis 1837. Marion Ravel, cinquième génération avec sa sœur Julie, à la tête de la maison Ravel.
On a toujours travaillé la céramique, on avait un bon savoir-faire. Aubagne est un bassin argileux, donc il y avait beaucoup d'entreprises comme la nôtre qui fabriquaient énormément d'objets en céramique. Hein. Le plastique n'existant pas, il faut imaginer que tout ce que nous utilisons encore aujourd'hui pour les hôpitaux, pour la vie courante, était fait en céramique. Donc nous, on était un atelier de fabrication, on faisait des carrelages, on faisait du matériel pour les hôpitaux, on faisait pour les jardins déjà des vases pour la vaisselle et de la vaisselle courante, hein, de la vaisselle comme aujourd'hui on va s'acheter rapidement dans une grande surface des assiettes pour manger tous les jours. Bah, les gens venaient chez nous, entre autres, pour acheter des assiettes pour leur cabanon, pour leur maison, pour voilà. C'était l'usage courant.
On dit que la maison Ravel fonctionne comme un petit village du 19e siècle. Ils ont aujourd'hui deux manufactures. La plus ancienne est intacte. Ce sont 2000 mètres carrés avec des lières sur les murs ou encore de grandes cheminées en briques.
Et on arrive et on découvre les gens, on croise le potier, les mouleurs, etc. Et on se plaît vraiment à maîtriser toute notre production, de la fabrication de la pâte argileuse jusqu'à la distribution. On veut vraiment, et on est vraiment très très rare à maîtriser la production même de notre propre matière, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'argile en vrac, on la travaille, on en fait notre pâte, et puis après ça part dans les différents ateliers, que ce soit pour le tour, le moulage, les cuissons, les émaillages, etc. Voilà, on essaye de vraiment être le plus indépendant et autonome possible, et tout est fait à Aubagne et à la main.
La maison Ravel fabrique depuis 184 ans de la vaisselle, des saladiers, des cruches, tout ce qui peut contenir de l'eau et que l'on retrouve un peu partout sur le bassin méditerranéen. Mais elle fait aussi des vases de jardin, souvent en collaboration avec des artistes ou des designers. Et ces créations, elles sont précieuses, elles permettent de mélanger des savoir-faire. Alors pourquoi pas de la poterie et du cuir recyclé produit par Petite H, une des maisons Hermès.
Le cellier de Hermès a travaillé avec notre potier, notre tourneur, ensemble. Et c'est très beau et c'est très rare. Deux hommes qui se sont connectés, qui ont échangé sur « alors il faudrait que tu me fasses cette pièce comme ça, que moi je puisse la percer, mais là tu me fais… » Et voilà. Et c'était super beau de voir ces deux artisans qui maîtrisent, qui ont de l'or dans les mains, pour aboutir alors sur des produits incroyables. Des pièces en céramique, des formes de carafes, des petites boules ou des pièces plus incroyables, plus grosses, et qui sont parties à Paris dans les ateliers Hermès, Petite H, et qui ont été complètement gancées de cuir, habillées de cuir à l'intérieur, percées avec des hanches Kelly. En fait, c'est vraiment les deux savoir-faire qui se sont mélangés pour donner une collection d'environ 40 pièces uniques.
Cette collaboration, on peut la voir à Paris, dans la boutique Petit H, dans le quartier de Saint-Germain. Et la maison Ravel veut être au plus près de tous les artistes avec qui elle travaille, qu'elle loge donc en résidence dans ses ateliers à Aubagne. Une aubaine pour former les jeunes artisans potiers céramistes qui rejoignent les équipes de Ravel.
Et voilà, chaque jour on apprend beaucoup de choses grâce à nos équipes de La France bouge et notamment aujourd'hui grâce à Charlotte Barrican. Nous sommes toujours avec Guillaume de Seine, le directeur général d'Hermès. Alors que pour que tout cela fonctionne, hein, il faut du savoir-faire, il faut des femmes et des hommes de grand talent. Vous venez d'ouvrir une 19e maroquinerie en Gironde et vous venez aussi d'ouvrir l'école Hermès des savoir-faire. Elle est agréée par l'éducation nationale, je crois qu'elle est au sein d'une de vos maroquineries qui se situe en Isère si je dis pas d'annerie. Concrètement, qui vous formez? Combien vous avez besoin de collaborateurs et collaboratrices en ce moment, Guillaume de Seine?
Alors, nous sommes dans un processus de recrutement un peu tous azimuts, parce que la maison, comme je l'ai dit, va bien. Dans la maroquinerie, depuis des années, nous recrutons plusieurs centaines de nouveaux salariés. autour de 400 à 500 par an.
Pour les former ensuite.
Pour les former, puisque l'ensemble de la formation, nous l'assurons nous-mêmes. C'est donc un cycle de 18 mois et nous avons aujourd'hui voulu créer ce qu'on appelle un CFA, un centre de formation des apprentis, qui nous permet, qui a été reconnu par l'Éducation nationale, ce qui nous permet de donner un diplôme à la fin de cette formation, un CAP par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que nous recrutons de façon très ouverte. Il n'y a aucun critère de formation préalable ou d'âge. Donc, puisque il faut juste passer des tests qui décèlent un petit peu la dextérité et l'aptitude manuelle. Et nous avons des belles histoires à la fois de formation de jeunes et aussi de reconversion vers les métiers manuels.
Guillaume Dessène, il y a le magazine de mode Elle qui vient d'annoncer qu'il va exclure la fourrure dans toutes ses éditions. Je rebondis sur cette question d'actualité, sur ce sujet d'actualité. Est-ce que chez Hermès, vous vendez de la fourrure ou vous avez déjà arrêté ?
C'est très épisodique. Nous avons de très très peu de choses. Historiquement, nous avons un tout petit peu de fourrure de temps en temps. Je dirais que c'est plus le choix du créateur.
Vous disiez que vous formez tous vos artisans, tout votre personnel en interne. Combien de temps faut-il pour réaliser le fameux Birkin ?
Alors ça dépend évidemment de la taille, parce que nous avons beaucoup de modèles différents. Hein. Au-delà du Birkin, on a plus de 40 modèles de sacs.
Mais le plus emblématique.
En moyenne, on va dire que c'est entre 15 et 20 heures.
15 et 20 heures pour un seul
pour
sac.
Pour un sac.
Et combien de temps d'attente ? Parce qu'il y a une liste d'attente, je crois, pour les Birkin.
Mais la production est évidemment reste artisanale, comme je l'ai dit. Donc nous l'augmentons, nous recrutons, nous formons. Il y a plus de 90 artisans qui ne font que de la formation. Mais nous allons à un rythme déjà fort et c'est vrai que la demande a l'air toujours plus importante.
Vous restez avec nous, Guillaume Dessène. Vous êtes le directeur général de Hermès. Maintenant, je vous propose d'accompagner, de donner votre avis sur un projet d'entreprise. Vous êtes prêts ?
Absolument.
On y va.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, en route pour les trophées de l'avenir Europe 1. La France bouge chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre pour ça et défendre leur dossier devant l'œil exigeant et attentif de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, émission exceptionnelle autour de Guillaume Dessène, qui est le patron d'Hermès. Et puis, bien évidemment, on aura les précieux conseils de notre non moins exceptionnel partenaire de la CCI, Nathalie Carré.
Une entreprise qui a été lancée il y a 6 mois. Bonjour, Oscar de Ponsan.
Bonjour.
Vous avez 28 ans, vous êtes le cofondateur de French Air. Donc, ça s'écrit French, hein, F-R-E-N-C-H, avec un R, tout accroché, un commerce en ligne qui rassemble au même endroit, sur le même site, toutes les marques et les produits d'excellence française. Déjà plus de 1000 références hein, sur votre...
1200 produits actuellement.
1200 produits sur votre site. Alors, on y trouve quoi ? Comment ça fonctionne ? C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Donc, merci de me recevoir. French Air, c'est une plateforme de vente en ligne qui relie les marques d'artisanat et de savoir-faire d'excellence français avec celles et ceux qui se soucient de la qualité. Donc concrètement, on se connecte sur frenchair.com, on consulte le catalogue de produits et on peut payer sur le site. On est livré quelques jours plus tard, que ce soit en France ou à l'étranger, assez rapidement chez soi. Et donc, French Air donne accès à tout un catalogue de produits fabriqués en France par des entreprises qui reposent leur savoir-faire sur l'artisanat d'excellence, des entreprises, des maisons qui ont une expérience assez longue dans la fabrication de ces produits. Donc on peut y trouver en effet des vêtements, des chaussures, de l'art de la table, du linge de maison, et on continue d'augmenter notre offre régulièrement pour satisfaire.
Voilà, je vais vous laisser finir votre phrase, j'ai beau être méchant, je vais vous laisser
finir
votre phrase.
Pour satisfaire le client, on va dire.
Pour satisfaire le client, parce qu'il y en a à la fois en France et à l'étranger.
Eh bien, bravo en tout cas, Oscar, pour tout cela.
Alors, je me tourne vers Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui chaque jour analyse, épluche chaque projet qui arrive à la rédaction de La France Bouge. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Oscar, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de French Air ?
Eh ben déjà les forces, alors le site est vraiment agréable, les produits sont bien présentés, vous mettez bien en avant le Made in France et les labels obtenus par les marques. Vous valorisez vos partenaires alors, par des fiches descriptives des produits, par votre blog, par une page dédiée aux marques. Et puis vous proposez des produits à tous les prix, hein. On en passe du t-shirt basique à 40 euros.
Tous les prix, c'est quand même...
Oui,
un...
Bon, j'ai trouvé 40 euros, moi. J'ai trouvé 450.
40 euros le mouchoir ou...
Non, le t-shirt. Non, Elisabeth, vous êtes taquine.
Okay. Moi, j'ai regardé, on est quand même plus vite au-dessus des 100 euros,
oui,
quand même. Souvent.
Ah, je suis d'accord. En tout cas, sur les points, il y aurait déjà une info pour vous, pour augmenter le nombre de marques. En fait, faites votre marché dans les podcasts de La France Bouge, hein, parce qu'on a plus de 200 jeunes marques, à mon avis, vertueuses, qui ont besoin de visibilité.
Oui, bah, j'ai vu qu'ils avaient Christelle, marque de casserole, oui, qu'on avait reçue il y a quelques mois à La France Bouge.
Exactement. Et puis, bah, comme souvent, cette histoire de différenciation, puisque vous n'êtes pas la seule plateforme qui fait la promotion des marques françaises écologiques artisanales. Donc, ils manquent probablement un angle qui vous positionne clairement sur un marché plus ciblé et vous distingue des autres. Alors, évidemment, vous pourriez être la plateforme qui valorise les entreprises labellisées ou celle qui valorise les entreprises qui innovent le plus. Mais peut-être, parce que vous le dites, que vous pourriez intervenir sur un sujet important, le juste prix. Aujourd'hui, on n'y comprend quand même rien et on a parfois l'impression d'être un peu pris pour un pigeon sur certains prix, justement. Donc, effectivement, on a des pulls à 70 euros dans une marque, 40 ailleurs, 150 ailleurs. Quel est le juste prix ? Vous pourriez demander à vos partenaires de proposer systématiquement un graphe qui explique le coût des matières premières, le coût de la main-d'œuvre, etc.
En fait, vous expliquer.
Ben oui, parce que pourquoi on a ces différences ? Et puis, plus ça permettrait à vos partenaires de valoriser leurs propres partenaires, ça participerait à ce que le plus grand nombre de Français comprennent et donc acceptent que la qualité se paye, mais se paye à un juste prix.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré, Oscar de Ponsin, cette histoire de comment se différencier ?
Alors, le juste prix, c'est en effet dans nos projets de mieux l'expliquer sur notre site. Comme on a commencé il y a quelques mois, on a préféré vraiment miser sur la mise en place de la plateforme, mais à partir de maintenant, on va vraiment se lancer sur la promotion, la visibilité de qu'est-ce qui fait les prix des produits que l'on vend chez nous.
Mais c'est vrai que c'est impressionnant, genre, le nombre de marques que vous avez, je trouve, en quelques mois est très différente et ça permet même de donner plein d'idées. Guillaume de Seine, patron d'Hermès, vous en pensez quoi ?
Moi, j'en pense le plus grand bien. J'ai une autre casquette qui est d'être président de ce qu'on appelle le comité stratégique de filière mode et luxe. Et bien sûr que nous encourageons beaucoup la redécouverte des savoir-faire français, la visibilité accrue de toutes ces entreprises qui se basent sur, en effet, la tradition manufacturière française.
Et c'est indirectement l'un des avantages, si on peut le dire comme ça, de la crise Covid que l'on traverse actuellement, c'est qu'on a redécouvert. Ça a donné un coup d'accélérateur, on l'a vu. Mmh. On était partenaires du salon Made in France, c'est impressionnant.
Ils ont l'accélérateur qu'il y a pu y avoir.
Voilà, exactement.
C'est vrai, le salon Made in France, par exemple, en est un exemple, oui, c'est vrai.
Quels sont vos projets, Oscar de Ponsin ? Comment pouvons-nous vous aider ? Vous avez besoin de quoi aujourd'hui ?
Là, on est une petite équipe, on est deux fondateurs, on a une stagiaire. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir lever des fonds.
Combien ?
On aimerait commencer peut-être avec 500 000 euros.
Vous avez dit à notre équipe, pourquoi pas 1 million ?
Soyons fous,
un million pour en avoir 500.
Vous en pensez quoi, Guillaume de Seine ? 1 million, c'est faisable ?
Je passe mon tour.
C'est très cool, ça.
Tout ça pour recruter, en fait. Voilà,
c'est pour recruter. Donc, c'est un bon besoin.
Exactement, et miser sur le marketing, ce qui va nous permettre de toujours faire connaître le savoir-faire français en France et à l'étranger auprès du plus grand nombre.
Ça s'appelle Frenchair, hein, si vous voulez découvrir des produits fabriqués en France qui mettent en valeur l'excellence et le savoir-faire français. Allez-y. Merci à vous, Oscar de Ponsin. Je rappelle que vous en êtes donc le cofondateur de Frenchair.
Nathalie Carré, on vous dit à demain. Et si vous voulez vous aussi présenter votre jolie entreprise, bah c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, La France Bouge.
Allez, suite et fin de votre émission, Guillaume de Seine, vous êtes le directeur général d'Hermès. Vous restez avec nous quelques minutes ?
Très bien.
On continue.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Ça passe trop vite, déjà dernière partie de votre émission, toujours avec Guillaume de Seine, le directeur général d'Hermès.
Et c'est le moment de La France Bouge, qui met en avant les entreprises qui placent l'humain, les initiatives de chacun au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Pierre de Froidefond.
Oui, bonjour Elisabeth.
Vous êtes le fondateur et le coprésident de CVE, vous produisez des énergies renouvelables, vous êtes indépendant, vous existez depuis 12 ans, 240 salariés. Si vous êtes dans La France Bouge, c'est parce que vous avez une politique bien rodée en matière d'accueil des nouveaux salariés. Vous avez mis des tas de trucs en place pour qu'ils se sentent bien comme à la maison. Vous avez mis quoi en place ?
Alors, si vous voulez, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que chaque nouveau collaborateur, au moment où il arrive chez CVE, découvre plus qu'un lieu de travail, mais découvre aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange et un lieu d'épanouissement. Et puis CVE étant une entreprise un peu complexe, on a 30 métiers différents, on est sur 3 énergies, 4 continents, il est essentiel que chacun comprenne la façon dont on s'organise, nos grandes missions, et puis surtout la façon dont il va contribuer par son travail à la réussite collective. Donc il s'agit de donner du sens et de responsabiliser.
Mais ça se matérialise comment ? Pour qu'on ait un exemple, là, Elisabeth et moi, vous nous recrutez demain matin, on arrive le 3 janvier, on a quoi à notre accueil ?
Alors, on sera ravis de vous recruter. Alors,
je sais pas si vous aurez les plus performants du
Non, mais vous êtes plutôt sympa, mais
on
a besoin de talents comme vous. Mais le parcours d'intégration donc, s'articule autour de 6 grandes étapes. Il y a d'abord un message d'accueil qui va être envoyé par votre manager sur notre réseau interne, notre workplace d'entreprise, pour dire qui vous êtes et pour dire, voilà, Elisabeth et Emmanuel arrivent lundi. Voilà ce qu'ils vont faire et voilà d'où ils viennent. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous aurez reçu un welcome book, qui est un livre d'accueil, qui vous explique comment fonctionne CVE, comment...
Et puis ce qui nous a intéressé aussi, c'est parce que vous vous renseignez sur la vie perso et la vie professionnelle de l'arrivée du nouveau collaborateur, et vous briefez en quelque sorte les équipes avant que le nouveau collaborateur arrive.
Mais oui, parce que c'est marrant, important, ça. C'est la vie sociale. Donc pouvoir établir des connexions avec vous qui aimez faire la cuisine ou vous qui allez courir à midi avec vos collègues, c'est vachement important quand vous arrivez dans la boîte, dans l'entreprise. Mmh. Donc d'où ce message. Le troisième élément du dispositif, ce sont des sessions d'onboarding là, où chaque responsable d'équipe présente son activité au nouveau. Donc là, ça crée des connexions immédiates.
Et les salariés sont heureux chez vous, ils sont contents d'arriver et d'être embauchés chez CVE. Merci à vous Pierre de Froidefond d'avoir répondu à nos questions dans la France Bouge. C'est déjà la fin de votre émission.
Bah oui, ça passe.
On dit déjà au revoir
jour
à monsieur de Seine.
Voilà, c'est fini, mais vous reviendrez peut-être. On aura encore plein de choses à dire autour d'Hermès, qu'il a aussi un beau parcours pour intégrer tous ceux qui veulent venir, parce qu'on l'a entendu depuis le début de cette émission. Il y a besoin de main d'œuvre du côté d'Hermès pour faire face à une demande exceptionnelle.
Merci à vous. Demain, Emmanuel, on va parler des livres
et une autre entreprise familiale indépendante, puisque c'est la plus grosse librairie indépendante de France, c'est la librairie Mola qui sera notre invité, Denis Mola, demain.
Allez, à demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.